Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primeau.
C'est une spécialiste des sols poreux, ce qui l'amène autant à s'intéresser à la fonte du pergélisol dans le Grand Nord qu'à l'établissement d'humains sur la Lune. Tout récemment, elle a cofondé avec des collègues de Polytechnique Montréal, Astrolite, la première unité de recherche au Canada à se spécialiser en génie lunaire. Aujourd'hui à Histoire de génie, je reçois Pune Magul, professeur au département des génies civils, géologiques et des mines à Polytechnique Montréal. Bonjour Pune, merci de prendre le temps de venir nous parler. J'ai plusieurs questions pour vous, mais avant tout, j'aimerais qu'on parle d'Astrolite. Quel est le rôle exact d'une unité de recherche en génie lunaire et comment elle vient s'imbriquer avec tout ce qui existe déjà dans l'écosystème, comme les agences gouvernementales, on pense à l'Agence spatiale canadienne, la NASA, l'Agence spatiale européenne?
Avant tout, bonjour. Ça va, Martin?
Très bien, très bien.
Je suis honorée d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Et si tu me permets, je vais te tutoyer. C'est correct?
C'est bon, c'est bon.
Ça marche, merci. Oui, Astrolite, c'est une unité de recherche qu'on a fondée avec les collègues à Polytechnique qui s'occupe du développement du génie lunaire. C'est un terme que peut-être il y a pas mal de gens ne savent même pas de quoi on parle. Ben, en fait, c'est il y a à peu près 52 ans que les humains, ils sont allés sur la Lune. Et puis, il y avait une pause de 50 ans à peu près. Et puis, je pense à peu près 5 ans que la NASA a mis en place son programme qui s'appelle Artemis. Et puis, cette année 2024, il va avoir beaucoup, beaucoup de missions lunaires. Pas seulement, en fait, la NASA, même, en fait, les autres pays comme le Japon et puis en Europe, en fait, aussi, ils sont très actifs. La Chine, l'Inde.
Mais l'objectif, c'est pas seulement de retourner sur la Lune pour marcher. Là. Et concrètement, qu'est-ce qu'on veut faire avec Artemis?
On veut vraiment bâtir une base lunaire. Et puis, la raison, c'est que si on veut vraiment aller plus loin dans l'espace, on a besoin d'avoir une... Moi, je dis toujours une station de service. Et puis la station de service, là déjà la Lune, c'est vraiment la première étape pour nous.
Un premier jalon.
Exactement, pour aller là et puis vraiment là pour, je rigole pas, station de service, pour vraiment faire des activités, avoir une base dans l'espace pour qu'on arrive à aller plus loin.
Quelles sont les étapes qui restent à franchir là, pour arriver à établir des humains sur la Lune?
Beaucoup, beaucoup de choses. La première chose, c'est qu'on ne connaît pas vraiment la région. Le but d'aller vers le pôle sud, pour la simple raison qu'on pense que là-bas, il y a la présence d'eau. Pourquoi c'est important? Parce que c'est H2O. Et puis, on va extraire l'hydrogène pour utiliser justement comme source d'énergie.
Ah, OK. C'est pas seulement pour assurer la survie du humain, de l'agriculture.
Et la plupart des deux termes qu'on dit, je sais que c'est un buzzword et les gens peut-être ils sont très intrigués par le nom. Là, quand on dit space mining, ce n'est pas vraiment dans le sens qu'on connaît sur la Terre pour utiliser là. Space mining, c'est dans le sens que la première chose est de trouver le lot, extraire pour justement de l'oxygène et puis l'hydrogène et puis recycler tout ça, toutes les procédures pour faire les activités humaines.
Parce qu'évidemment, c'est ça, transporter tout ce matériel-là sur la Lune, ce serait très coûteux, j'imagine.
C'est très coûteux et on ne va pas le faire là. En fait, c'est le grand défi. Comment on peut réduire vraiment les coûts de l'exploration spatiale? Et puis, on ne va pas demander au gouvernement non plus pour venir encore investir. Donc, le défi, c'est qu'on va vraiment aller vers la commercialisation. Commercialisation, pas dans le sens que peut-être là, dans les prochaines années, faire des activités commerciales, mais les compagnies privées peuvent en fait aller sur la Lune et faire, par exemple, des activités de façon autonome.
OK.
Et c'est le but. Et puis, comme je t'ai dit, là, la première chose à faire, là, on va dans une région qu'on ne connaît pas du tout.
Donc, il faut le caractériser, il faut comprendre qu'est-ce qui se trouve dans le sol, déterminer quelle quantité d'eau qu'on peut trouver. C'est quoi les autres étapes d'un établissement? Je sais qu'il y a, entre autres, là, des recherches dans les grottes, parce que les grottes seraient des environnements plutôt stables pour des humains.
Oui. Et Martin, c'est un milieu qu'on ne connaît pas. On a toujours utilisé les matériaux, la terre et puis le sol, pour faire vraiment les briques de construction. On a toujours vécu dans un environnement de gravité terrestre.
Mm-hmm. Les règles du jeu changent. On se retrouve dans un autre
complètement différent. Ouais. Et puis, ça, c'est vraiment en tant que chercheur, quand on regarde le défi, la première chose, c'est qu'encore là, même les ingénieurs, les chercheurs, j'ai déjà même vu dans la publication scientifique, on amène encore nos hypothèses de base terrestre pour appliquer sur la Lune. Étant donné qu'on n'est pas encore réussi à aller là-bas et puis vraiment bâtir quelque chose, à long terme, je veux dire, on n'a aucune idée si ces hypothèses-là vont marcher ou pas.
Parce qu'on se trouve dans un environnement avec une gravité différente. Bon, il y a les matériaux aussi à trouver.
Rien ne reste en fait sur la Lune. Il n'y a pas d'atmosphère. Il n'y a pas de pression atmosphérique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gravité. Quand je dis il n'y a pas de gravité, c'est G divisé par 6. Mais rien ne reste sur la Lune. Donc, tout est différent. Donc, imagine tout ce que tu veux construire. Déjà, tu dois...
On ne sait pas quel impact ça va avoir sur l'environnement, par exemple sur le sol. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire?
Oui, oui, okay. C'est ça. Et puis le type de fondation que justement on voudrait construire pour les premières bases lunaires, là, avec quelle hypothèse on va le faire? Avec quel matériau de construction on va vraiment le faire? Enfin, on a beaucoup d'idées là pour rendre des choses possibles, mais encore, est-ce qu'ils vont marcher ou pas? On n'a aucune idée.
On parle d'exploration de la Lune, de colonisation potentielle, mais la question peut-être qui est encore plus importante avant tout, c'est pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi des humains devraient investir une partie de l'argent public dans ce projet-là?
Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. J'essaie vraiment de te dire mes pensées à moi. Franchement, je pense que ça fait partie de notre ADN. Encore, on a découvert notre Terre. On est partout. En tant que sapiens, on a déjà découvert les nouveaux continents. On s'est bien établi. On a, même s'il y a vraiment des milliards de questions à répondre encore pour mieux connaître notre planète, on ne connaît pas très bien le fond des océans, par exemple. Là. Il y a vraiment pas mal de choses encore à découvrir. Mais encore là, on est sapiens. C'est plus grand que nous. Il faut toujours aller explorer des nouveaux, je vais dire, terrains.
Un peu comme on fait aussi en sciences fondamentales, où on cherche à comprendre comment les choses se font.
Oui.
Puis, OK.
Ça, c'est pour moi une réponse vraiment philosophique derrière ça. Et puis, peut-être vraiment, on ne sait pas pourquoi on est comme ça, mais on voudrait explorer.
Puis donc... Avec Astrolite, vous venez quoi? Vous venez faire en sorte que des chercheurs sont disponibles pour développer des technologies pour répondre à des problématiques dans le cadre de Artemis notamment?
C'est ça, en fait. Moi-même et mes collègues, on a senti qu'on a besoin d'un momentum au Canada. Et puis inviter justement un petit peu inspirer les étudiants et amener en fait différentes expertises des chercheurs pour travailler dans ce domaine. Pensez un petit peu plus grand. Tu vois, là, c'est pas juste aller faire la recherche incrémentale, petit à petit, mais on a vraiment besoin d'innover dans ce sens. Parce que si au Canada, on ne le fait pas aujourd'hui, d'ici 5 ans, on va probablement perdre le terrain. Et puis, comme je t'ai dit, là, c'est vraiment dans le contexte global. Étant donné qu'Artemis a déjà signé pas mal d'ententes avec différents pays, l'Australie, même des pays en Asie, en Afrique. Il y a vraiment un momentum global en ce moment. Ce n'est pas dans le contexte où il y a 50 ans, les États-Unis contre la Russie.
Ouais. Il y a un écosystème qui se crée, qui se bâtit, un écosystème de recherche pour
développer des outils. Et ça, c'est accéléré de façon exponentielle.
Pounemagul a grandi en Iran dans les années 90 et 2000, plusieurs années après la révolution islamique de 1979. Elle nous explique comment elle a réussi à faire son chemin jusqu'à Montréal grâce au génie civil.
En fait, j'ai grandi dans un environnement, dans une famille qui valorisait quand même énormément l'éducation. J'ai eu vraiment la chance d'aller vraiment dans les top écoles, les écoles vraiment de qualité en fait en Iran, les écoles qui étaient super sélectives. Dans le sens qu'il y avait vraiment des concours à l'entrée, là, les concours écrits. Imagine, à l'âge de 9 ans, tu dois passer des choses. Je ne veux pas vraiment dire que c'était bon, là, au niveau de peut-être stress, où il te toujours met un tag sur toi, que tu es super doué, tu dois vraiment, faire en fait les études, tout ça. Tu vois, en termes d'exigence, en termes d'entente, et puis
très
tout ça.
Très tôt. Et on a ça
c'était
ici aussi.
Très tôt, oui. Donc, enfin, j'étais admise et c'était très bon dans le sens que quand tu vas à l'école, tu vois que t'es là juste, enfin, je vais dire pour ton mérite. C'était pas parce que tu viens d'une famille riche ou tu viens d'une famille pauvre. Tous les gamins.
L'éducation était accessible à cette époque-là en Iran.
Oui.
Puis je sais aussi que l'éducation des femmes était valorisée aussi. Là. Il n'y avait pas de frein.
C'était vraiment valorisé. Comme je t'ai dit, à l'époque, il y avait un mouvement pour ouvrir les universités privées en Iran. Et puis encore avec l'esprit de gauche, les gens disaient qu'arrêtez, c'est l'éducation doit être au public et tout ça là. Et puis il y avait un argument que je me souviens vraiment, j'étais très jeune là, à l'âge de 9 ans, 10 ans. Il y avait un argument que quelqu'un a dit, on préfère que les mères qui éduquent la nouvelle génération, ils ont au moins des études supérieures. Donc, tu vois, la pensée, peut-être c'était pas pour l'employabilité, mais c'était juste, OK, tu veux être une mère ou une femme, on préfère que tu éduques la nouvelle génération avec
un esprit qui a eu un bagage.
Oui, donc je trouve que quand même c'est contradictoire. C'est comme tu veux donner en fait des études supérieures à une classe,
une classe moyenne?
Moyenne ou même ouvrière, tu encourages tout le monde d'aller faire des études supérieures, mais tu ne penses pas à l'employabilité, mais tu veux juste, par exemple, éduquer une génération, une nouvelle génération qui...
Mais c'était bien, c'était pas de l'endoctrinement, c'était vraiment...
Ça, c'est en fait, je répète, c'était dans la contradiction d'une grande civilisation, le mouvement de gauche, et puis les trucs théocratiques, c'est comme ils essayaient de traduire tous les concepts, je vais dire, islamiques, chiites, en fait, avec tout ce qui passait, par exemple, avec le mouvement de gauche. Donc, imagine l'amalgame. Qu'est-ce qui va donner là? Maintenant, quand je lis ou j'entends, ça me fait rire parce que c'est contradictoire. Tu ne peux pas mélanger vraiment différentes théories avec des philosophies différentes.
Quelque chose qui est curieux avec votre histoire, c'est qu'à la base, vous avez étudié, non pas pour travailler en génie lunaire, là, ce qui est... Si je comprends bien, c'était plus la composition des sols. Parlez-moi de ce qui vous avait amené à l'origine en génie.
Enfin, c'était en fait l'école que j'étais admise à l'âge de 10 ans. Là, on avait vraiment un parcours académique, enfin, physique vraiment avancé, mathématiques avancé. Je n'exagère pas, quand on était au lycée, là, la première année du lycée, je peux te dire qu'on était... capable de résoudre les problèmes de quatrième année de l'université. Donc, il y avait vraiment un programme très intense, l'éducation de base mathématiques, la chimie, le physique, et puis toutes sortes de sciences. Et puis, c'était vraiment un milieu, là, geek. C'est comme les écoles étaient séparées. Je ne sais pas, peut-être, c'était vraiment, pour l'époque, ce n'était pas mauvais parce qu'on était juste entre les filles. Tu vois, il n'y avait pas de bullying, il n'y avait pas...
Là, on parle de l'université?
Non, je parle d'université, c'était mixte, vraiment, enfin, l'école, là, quand j'étais au collège et puis au lycée. Donc, juste pour te dire, avec cette éducation, c'était hors de question qu'on ne peut pas faire le génie, on ne peut pas devenir, par exemple, médecin ou ces domaines-là étaient pour nous.
Oui, c'était accessible. Mais pourquoi génie plutôt qu'une autre profession libérale?
J'adorais en fait la physique et les mathématiques et la programmation. Et je me souviens encore les premiers codes que j'ai écrits sur Pascal, le langage de programmation de l'époque dans Visual Basic et tout ça dans les années 90 et puis après Fortran. Je me souviens encore les codes qu'on a développés à l'époque. J'adorais et puis je voulais vraiment aller vers le génie aérospatial et puis
ah oui déjà à l'époque
oh oui à l'époque même je me souviens la conseillère qui nous parlait là quel métier vous voulez où vous voulez travailler qu'est-ce qui vous inspire moi je me souviens j'ai dit je veux travailler à la NASA
ah oui ok et que c'est pas plusieurs enfants vont avoir eu le rêve de devenir astronaute
absolument
aussi
pas non
non mais astronaute même pas.
Bah, astronaute, j'ai pas, franchement, honnêtement, j'ai pas pensé à ça. Parce que, encore, regarde dans le. Enfin, j'ai pas vu l'époque de Apollo.
Ouais.
Et puis.
Puis vous étiez pas américaine, donc
non,
déjà, il y a un frein.
Exactement. Mais là, enfin, la NASA aussi, j'avais entendu vraiment avec les. Comment dire, la génération un petit peu de mes parents, les scientifiques, les ingénieurs d'origine iranienne qui travaillaient en fait chez la NASA, qui menaient vraiment les projets vraiment de, pas juste, il était vraiment dans le management, il était vraiment dans, comme PI des projets, et puis on entendait quand même là, leur histoire à eux, et puis c'était très inspirant, et puis vraiment c'était. J'étais très tentée, premièrement, le génie aérospatial. Donc, j'avais en fait ces conseils-là. Si tu veux quitter l'Iran pour faire tes études à l'étranger, à cause de l'environnement politique, essaye d'éviter parce que ça va quand même réduire tes chances. Et puis, j'ai choisi en fait un domaine moins risqué, qui était le génie civil et j'adorais le tremblement de terre.
Je m'étais posé la question en fait s'il y avait un lien parce que en Iran, il y a des zones à potentiel sismique
oui.
Très prononcé. Là, il y a eu, je reparcourais un peu une fiche qui rappelait, il y a eu un tremblement de terre à la fin des années 90 qui a causé 15 000 morts, si je me souviens bien.
J'étais très petite, c'était au nord de l'Iran là,
ouais.
Et puis.
Est-ce que ça vous a marqué ça?
Oh oui. Enfin, moi, je pense qu'à l'époque, j'avais 6 ans, 7 ans, si je ne me trompe pas. C'était pas dans c'était la fin, je pense. Au début des années 90, pas la fin.
Ah, OK.
Je pense, si on parle de même tremblement de terre. Mais justement, j'étais très marquée. Et j'avais en fait une de mes grandes tantes qui habitait en fait à la Caspienne. Et puis une fois avec la famille, on était là pour la voir. Et puis, tu sais, c'était vraiment les gens très touchés par le tremblement de terre. Et puis, je voyais en fait des enfants qui avaient perdu en fait leur famille, leurs parents. Et puis, il y avait toujours encore là l'esprit de révolution. C'est comme il faut aider les gens. Ils sont là. Tu vois un petit peu là l'esprit d'aider,
de
contribuer, de communauté.
Ouais.
Exactement. Donc, moi, je me souviens là, j'étais très marquée. Peut-être c'est une des raisons que j'étais trop là pour le génie sismique. Peut-être c'était ça. De toute façon, le tremblement de terre, là, en Iran, en Turquie, on le vit. C'est chaque année, on a des événements, là. Je me souviens, c'était pas juste ce tremblement de terre. Au nord de l'Iran, on avait, après, à Bam, il y avait une citadelle de, je sais pas, en français, on dit citadelle encore?
Oui, une fortification.
Oui, d'à peu près 3500 ans.
Ah oui, OK.
Là-bas, c'était vraiment beau, là. Mais
ça a été détruit par
le tremblement de terre. Okay. C'était vraiment dommage. Et puis, c'était quelque chose qu'on vit vraiment, on vit avec. Donc, tu sais, j'ai choisi vraiment un domaine qui était en même temps très dynamique.
Puis est-ce que c'était dans la perspective, déjà, vous saviez que vous alliez vouloir faire une carrière ailleurs dans le monde? Est-ce que c'était pour sortir d'Iran aussi ou vous vouliez travailler là-bas?
Ben, les deux. Tu sais, toute mon adolescence est passée dans un environnement quand même. Encore, il y avait l'esprit de révolution. Il faut changer, il faut bâtir, il faut... Tu vois, il y avait cet esprit-là. Et puis, tu sais, là, le contexte politique aussi était très, très calme. Et puis, bof, à un moment donné, j'étais à l'université, c'était le programme nucléaire iranien qui est devenu dans les médias comme un... le président a changé, le gouvernement est devenu extrêmement conservateur et puis ils ont fermé vraiment les frontières. Il faut, tu vois, encore revenir vraiment à une époque. Et puis, tu sais, là, même à l'époque, par exemple, c'était obligatoire de porter en fait un voile.
OK.
En Iran, et je suis pas grandi dans cet environnement. C'était comme, il fallait toujours te montrer différemment, les valeurs de ta famille différentes. Tu vis quand même dans un système, dans un régime théocratique qui essaie d'imposer des règles, des choses. Et puis, j'en avais marre, là. J'étais une jeune femme émancipée, je veux dire. C'était pas juste au mot. La plupart, vraiment, de mes amis, là, ils ont grandi dans la même situation. Et je peux te dire, la génération de mes amis à l'université, la plupart, ils sont plus en Iran.
Parce que aussi en 99, il y a eu plusieurs manifestations étudiantes, mais il y en a une très grosse en 99. Il y a eu un mouvement étudiant contre
l'État. Moi, à l'époque, j'étais toujours au lycée.
Ouais.
J'étais toujours au lycée, mais je m'en souviens. Et puis, je suis allée dans une université qui était très, très politisée. Dans le sens que même la révolution iranienne a été vraiment quelque chose. Commençait là les premiers mouvements, en fait.
OK, l'équivalent du cégep du Vieux-Montréal au Québec.
Oui.
Je fais une blague, mais c'était l'épicentre, c'est là, de là que partaient les mouvements, peut-être, de
oui,
révolte ou de.
Tout.
De
tous les mouvements sociaux, la révolution, même la journée des étudiants, c'était comme l'armée du chat est venue en fait, la faculté de génie où j'ai fait mes études et puis tiré sur les étudiants.
Wow.
Et je pense que c'était Nixon qui visitait l'Iran, Téhéran, et puis il y avait une manifestation à l'université. Et puis voilà, ça c'est devenu la journée des étudiants universitaires en Iran. Même aujourd'hui, je pense que c'est le cas. Et puis, voilà, dans un environnement, dans une faculté de génie, c'est peut-être étrange. Ici, au Canada, peut-être on n'a pas encore les facultés de génie. On voit que des geeks, là, qui s'occupent vraiment de développement technologique et tout ça. Mais en Iran, c'était vraiment une faculté qui avait beaucoup de présence, les gradués de faculté de génie, là.
Une implication sociale.
Sociale, implication sociale, politique, dès le départ, t'es un ingénieur, t'es un politicien. Donc, il y avait vraiment cet esprit. Je sais pas si c'est bon ou c'est pas bon, parce que je pense qu'on manquait quand même une éducation en sciences sociales, mais l'environnement, c'était comme, t'es un ingénieur, tu travailles pour ta communauté, tu travailles, tu bâtis pour ta société. Donc, t'as une présence politique. Donc, il faut connaître, en fait, la politique. Il faut connaître quand même ton engagement social et tout ça. Donc, oui, il y avait beaucoup, beaucoup de mouvements. Même quand je suis entrée à l'université en 2002 et j'ai fini en 2006, il y avait toujours des grèves d'étudiants. Il y avait toujours les examens finaux annulés, là. Donc, il y avait toujours des manifestations. On marchait sur le campus de l'université et puis il y avait toujours, on critiquait le gouvernement. Mais ça a tout changé. La dernière année de l'université, c'était Ahmadinejad qui est devenu président. Ils ont fermé, en fait, les frontières. Et puis là, c'était vraiment le moment où je me suis dit, il faut que je quitte.
Comment c'est devenu? Qu'est-ce que c'est devenu? Est-ce que vous avez eu peur pour votre sécurité?
Tout ça, vraiment l'avenir. C'est comme, comment tu veux vraiment vivre là, dans cet environnement? T'as tes rêves, t'es jeune, tu veux vraiment bâtir des choses, tu veux avancer des choses. Et puis, t'es idéaliste quand t'es jeune. Donc, tu grandis comme t'es une femme, t'as des compétences, t'es une femme émancipée, tu veux aller vivre. Et puis, la société, là, comme je t'ai dit, quand ils ferment les frontières, quand ils commencent vraiment à travailler sur les projets, que tu sais c'est quoi le but, tu sais, tu le sens. Et puis, ça, c'est pas toi, c'est pas tes valeurs, et tu veux pas entrer dans le jeu. Mais c'est comme ils te prennent, mm-hmm. Et puis ils essayent à toute force. Tu vois, c'était vraiment ça que quand j'étais en fait au bac, j'ai dit là, je peux plus.
C'est ce qui vous a amené à, parce que, bon, après votre formation à l'Université de Téhéran, vous êtes parti faire maîtrise doc à Paris, à l'Université des Ponts, à l'École des Ponts.
À l'École des Ponts.
Avant d'embarquer sur ce sujet-là, je voulais juste savoir comment on se sent quand on laisse toute la famille de côté, on se dit « OK, je pars, puis peut-être que je ne reviendrai plus. »
J'étais très courageuse. Et mes parents étaient beaucoup plus courageux que moi. Tu sais, quand j'ai quitté l'Iran, j'avais à peine 21 ans. Et puis, j'ai juste pris des cours 3 mois avant que je quitte l'Iran. Mais quand t'es jeune, tu penses pas. J'ai même pas pensé une seconde que je connais pas la langue française pour vivre. Je te jure, c'était OK, on va, c'est un défi, on va apprendre. J'ai appris que je connais pas la langue très bien quand je suis arrivée à Paris et puis je voulais faire des courses, par exemple. Donc, je suis arrivée très choquée. Tu n'as pas l'appui de ta famille. J'étais quand même une fille très gâtée, j'avoue. Et je me souviens, j'avais une grande valise là. Mes parents qui ont envoyé après, envoyé encore 30 kilos de choses pour m'envoyer mes affaires. Et je suis arrivée à une station Luxembourg. Et puis, j'ai vu un grand escalier, l'ascenseur qui ne marchait pas. Et puis, c'était à moi de prendre une valise de 30 kilos. Et puis, tu sais, en Iran, là, quand il voit quand même, il y a une femme, peut-être c'est un petit peu l'esprit de, encore
l'esprit d'entraide,
patriarcal, okay. C'est comme il faut aider les femmes, je sais pas. Et puis, d'habitude, quand tu as une valise, il y a une dizaine de jeunes hommes qui viennent t'aider là. Est-ce que vous avez besoin? Mais là, tu sais, à Paris, tout le monde s'occupe de, tu sais, dans leur livre, dans leur... Et j'ai regardé autour de moi, j'ai vu, il y a pas mal de gens qui passent sans même me regarder. Donc, c'était vraiment un moment que j'oublie jamais. Je me suis dit, si tu veux être une femme indépendante, ça, c'est le moment.
Et avec la valise, vous l'avez traînée jusqu'en haut?
Oui, c'était vraiment un moment là que je me suis dit, j'ai 21 ans, je suis une jeune femme émancipée, je suis une rebelle, je veux vivre en fait ma vie. Vas-y, prends la valise.
La vie est faite comme ça. Des fois, on vit des moments, on pense pas que ça va devenir un moment charnière, mais oui, on s'en rappelle plus tard parce que ça a été un défi, puis ça nous a montré, ça nous a ouvert des perspectives. C'est un peu ce que vous avez vécu ici. Je reviens à Paris maintenant. Donc, vous êtes venu étudier à Paris. Je sais pas exactement quel sujet... vous a occupé, mais à quoi vous vous intéressez quand vous avez fait
c'était
votre maîtrise?
C'était ça, j'ai fait mon bac en génie civil en Iran et puis j'ai pris une bourse de gouvernement français pour continuer mes études en France. À l'époque, je jouais aussi au soccer, futsal. Et puis, je jouais comme j'étais en Iran, j'étais une joueuse semi-professionnelle. Je jouais dans un club, je jouais vraiment à l'échelle nationale. Même le moment, un mois avant que je quitte l'Iran, j'ai eu une invitation pour jouer dans l'équipe nationale.
Wow.
Mais là, j'ai décidé de, tu vois, là encore, continuer mes études et puis encore là, le sport féminin dans les années, je ne sais pas, là, c'était en 2006. Avec un gouvernement théocrate qui essaie toujours de mettre un voile sur toi, là, ça ne fait pas de sens. Donc, je ne pensais pas qu'il y a vraiment un avenir, là, si je veux vraiment choisir un parcours sportif. Donc, j'ai quitté à Paris quand j'étais à l'école des ponts. Je jouais justement dans l'équipe de l'école. On a fait des compétitions de l'Île-de-France. C'était vraiment marrant, là, avec les filles qu'on... Notre équipe n'était pas vraiment très forte, mais c'était vraiment amusant dans le sens que j'ai beaucoup appris la langue française. Je me suis beaucoup mieux intégrée dans la société. Et puis, j'ai continué, en fait, génie parasismique. Donc, j'ai continué ça là pendant mon projet de maîtrise et puis de doctorat. Je travaillais...
C'était dans quelle perspective? Vous voulez devenir chercheur, vous le savez déjà?
Oui, dès le départ, là, je voulais vraiment devenir une prof. Et puis, en 2021, quand je suis venue à Polytechnique, j'étais en train de nettoyer mes fichiers, mes disques durs que j'avais là, et puis j'ai trouvé tous mes fichiers de PhD. Donc, on a fait une formation, c'est ça qui est très marrant, on a fait une formation comme valoriser ta thèse de doctorat. Donc, c'était comme vraiment regarder le big picture de ton projet de recherche et puis voir, calculer combien ça coûtait. Et puis, on a fait à la fin de cette formation, il y avait une... enfin, il fallait rédiger un rapport et à la fin, c'était comme, c'est quoi l'avenir? Dites-nous, en fait, l'avenir académique ou d'industriel, qu'est-ce que vous voulez faire? Et j'avais, en fait, un paragraphe dans mon parcours académique, si je deviens un prof, je veux devenir prof à Polytechnique Montréal.
Ah oui, ok.
À l'époque, c'était l'École Polytechnique de Montréal. Mais je ne sais pas pourquoi j'avais écrit ça.
Ah,
mais...
j'allais vous demander, parce que je sais qu'après, vous êtes venu, en fait, vous êtes venu à l'Université Laval pour faire un stage postdoctoral. Qu'est-ce qui vous a amené au Canada, au Québec même?
Ben, je voulais vraiment essayer l'Amérique du Nord. C'était le but vraiment initial. Et puis, j'étais résidente permanente, en fait, au Canada. Et puis, j'ai postulé, en fait, partout. Je me souviens que j'ai eu une invitation à même l'université en Californie. Et puis, j'ai choisi, en fait, d'aller, de venir, en fait, au Canada pour la simple raison qu'à l'époque, si j'allais aux États-Unis pour sortir... Je ne pouvais pas, il fallait rester. Et puis,
ah, okay.
Et puis l'autre raison, c'est que ma mère, en fait, était malade pendant 11 ans. Elle avait, en fait, un cancer. Et puis, c'était vraiment dur, en fait, pour moi et pour ma famille.
Vous vouliez avoir la possibilité
de rentrer facilement okay. Et puis de quand même visiter ma mère. Et voilà, donc c'était la raison que je suis venue au Québec. Et après, j'ai fait mon postdoc à l'Université Laval. Je suis venue après à Montréal. J'ai travaillé en tant que chargée de projet en industrie. Et après, je suis tombée amoureuse. Donc...
Il y a eu un passage. Vous avez été embauchée en premier par l'Université du Manitoba, c'est ça?
Oui, après mon séjour à Montréal. Et en 2015, j'ai eu un poste de prof à l'Université de Manitoba. Et ça aussi, c'est très... Les gens me demandent pourquoi tu es allée au Manitoba après la... moi, je suis arrivée dans le marché de travail en plein commission Charbonneau.
Donc, la commission sur l'industrie
construction,
du génie...
génie civil, génie des mines, il n'y avait pas vraiment grand-chose dans le marché. C'était frustrant, quoi. Toutes les grandes entreprises, là, c'était presque mort. Pas d'embauche, pas de projet. Et puis, ça a pris du temps, quand même. Et puis, tu sais, là, tu arrives, t'es jeune, t'es encore, t'es ambitieuse, tu veux bouger des choses, tu veux des choses, mais il n'y a pas de travail. Et puis, enfin, il y avait de travail, je travaillais, mais c'était... très contente, en fait, de mon expérience aussi, là. Mais c'est comme je ne voyais pas vraiment qu'un jour, je vais travailler sur un grand projet international.
C'est difficile de se projeter dans l'avenir dans ce contexte-là.
Et c'était comme... C'est comme la fin. Et, tu vois, il n'y avait pas vraiment une perspective à un moment donné, en 2000, machin, là, ça va finir et puis on peut vraiment travailler ouvertement et travailler sur les projets. Au moins, participer justement dans les bids et puis dans les compétitions pour amener des projets, il n'y avait pas ce genre de choses. Donc, avec mon mari, on s'est dit, à l'époque, on n'était pas encore mariés, là, mais on s'est dit, là, écoute, on va un petit peu vivre ailleurs. Et puis la première personne qui trouve en fait
un emploi
là, l'autre suit.
C'est vous ou c'est lui qui a trouvé en premier?
C'est moi.
OK. vous avez vécu dans plusieurs endroits dans le monde. Qu'est-ce que vous retenez de vos différentes expériences? Est-ce qu'il y a des aspects que vous avez trouvés plus difficiles dans l'intégration, par exemple?
Tu sais, l'intégration, c'est très... Pour moi, enfin, ça dépend vraiment de ton caractère aussi. Ça dépend vraiment un petit peu de...
De quelle façon? De son ouverture aux autres?
Oui, de la façon que tu vois le monde. Et puis, moi, dans mon parcours, ce que j'ai vu, c'est que, écoute, j'ai un nom atypique, j'ai un parcours atypique, et puis, si je veux vraiment réussir dans cet environnement, je dois innover. Je dois amener quelque chose de nouveau sur la table. Et puis, imagine là, c'est dur. Dur dans le sens que tu dois aller dans ta zone inconfort. Et puis, tu dois apprendre des compétences, des skills. Tu dois vraiment voir comment communiquer avec les gens. Moi, c'est comme comment vraiment aller et puis faire une bonne pitch et puis essayer de présenter tes idées. Et encore, tu vois, tu me vois, je suis babyface, je suis femme. c'est pas parce que c'est pas parce que j'ai manque de confiance. Non, je t'ai déjà dit, j'ai grandi dans un environnement que là, c'est hors de question. Il faut qu'on se batte pour réussir, tu vois. Mais c'est parfois la façon que les autres...
C'est le regard des autres.
C'est ça qui te mène. Pourquoi ils pensent que je ne suis pas capable? Mm-hmm. Tu vois, c'est plutôt dans l'autre sens. Donc, tu te dis, OK, donc je dois développer justement une compétence pour un soft skill, pas vraiment une compétence technique pour un petit peu m'approuver là. C'est comme, je suis là, je sais de quoi je parle.
Fait que vous sentez que c'est vous, dans le fond, qui avez fait des efforts pour vous
c'est
intégrer.
C'est toujours
puis...
toi. Ouais. En fait, enfin, c'est encore dans les deux sens, mais je veux te dire, peut-être le milieu veut justement te faire intégrer, mais toi, tu te bloques. Et dans l'autre sens, c'est comme, tu vois, en fait, t'aider justement à être intégré dans ta communauté, dans ton groupe, mais le groupe te bloque. Tu vois, c'est toujours dans deux sens-là. Tu ne veux pas dire c'est la faute du groupe ou la faute de la personne. C'est très complexe, en fait, l'intégration, je veux te dire.
J'en doute pas. C'est une réalité qui, pour plusieurs d'entre nous, est inconnue. Il y a des codes culturels aussi,
oui.
Pas juste par la langue, mais il y a des codes culturels aussi qui sont différents d'une société à l'autre. On a parlé du parcours, mais on n'a pas parlé de vos recherches plus spécifiquement jusqu'ici. Le temps file, puis je voulais absolument aborder ce volet-là. Vous êtes impliqué dans plusieurs projets qui me semble éclectique. Ça va de la création d'outils pour mesurer la stabilité des sols en zone nordique par des signaux sismiques, jusqu'à la création d'un genre de robot inspiré du ver de terre là, qui est capable de caractériser le premier mètre de sol qui pourrait peut-être un jour se retrouver sur la Lune, on ne sait pas. Puis il y a aussi l'implantation de mini-centrales nucléaires. C'est lequel de ces projets-là qui vous motive le plus?
Mais moi, je pense en tant que prof, on doit avoir l'expertise dans deux, trois domaines et puis être généraliste dans les autres domaines. Et puis ça nous aide vraiment à collaborer avec les autres et puis mener les projets interdisciplinaires. Et puis une autre chose, c'est comme je déteste de me répéter. Encore, je ne veux pas dire que c'est positif ou c'est négatif.
Vous aimez les défis, dans le fond, c'est des projets que je comprends que vous n'êtes pas seul sur ces projets-là, là. Souvent c'est oui. En collaboration, mais vous aimez aussi apprendre, j'imagine.
Exactement. Si je veux vraiment encore continuer, par exemple, mon projet de doctorat, j'aurais toujours resté dans le domaine de génie parasismique et puis étudier par exemple, la propagation dans les milieux, dans les géomatériaux. Mais j'ai essayé d'amener justement cette expertise dans la caractérisation du pergélisol. Pergélisol, à la base, ce n'était pas mon expertise. Mm-hmm. Je l'ai appris quand je suis devenue prof. Et puis maintenant, j'applique, tu sais, ces connaissances-là dans le contexte lunaire.
Ouais.
Je ne connais pas le matériau, mais je connais quand même la physique de propagation, la réponse mécanique des géomatériaux ou géophysique. Tu vois, là, j'essaie vraiment de définir les défis comme ça, appuyer sur mes expertises, mais encore aller un petit peu plus loin.
Sortir de sa zone de confort encore.
Oui.
Ça caractérise un peu votre parcours jusqu'ici.
Exactement. Et puis, j'ai un autre projet que je collabore avec les gens qui travaillent sur la microbiologie de pergélisol. Et puis, comment, en fait, ça contribue à l'émission des gaz à effet de serre. Encore, je connais le milieu de pergélisol, mais je ne connaissais pas les propriétés microbiologiques de pergélisol. Donc, c'est vraiment intéressant. On travaille avec Transmetech. Imagine là-haut qui travaille dans le biomètre, mais on est en train de développer des microfluidiques pour étudier le pergélisol et l'interaction des racines, les microbes et pergélisol.
Donc un projet plus biologique. Même Transmetech, à la base, c'est des applications pour la santé. Mais
oui.
Là, ici, on développe un outil qui permet de faire une caractérisation plus biologique, si je comprends bien.
Oui.
OK. Non, mais c'est le fun. C'est le métier aussi. C'est le domaine qui vous permet d'explorer comme ça des avenues nouvelles. Puis profiter de la chance que vous avez. Si je reviens au robot ver de terre, je me rappelle, bon, j'ai écrit un texte sur le sujet pour ceux que ça intéresse, et c'est un sujet que je trouve intéressant. Qu'est-ce que cet outil-là permettrait de faire qui se fait pas déjà en termes de caractérisation du sol?
Ben, en fait, le but, c'est que quand on fait les travaux de forage sur la terre, encore, la présence d'eau est acquise.
Ouais.
C'est comme on pense même pas qu'on va vraiment forer dans un environnement qui n'y a pas de l'eau. Mm-hmm. Et puis, on amène les grands équipements. Vous avez déjà entendu la bam, 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 bam dans les projets de construction. Il y a toujours une grande camionnette là-bas. Et puis, on a en fait la...
À quoi ça sert, cet outil-là?
C'est comme on appuie, on mesure combien de coups on a besoin pour que, par exemple, les tiges sont faites dans le sol de 15 cm. Et puis, on mesure le nombre de coups. Et puis, il y a des relations empiriques avec la résistance du sol, avec justement le nombre de coups appliqués.
Donc, ça nous donne une indication sur la nature du sol.
Exactement. Qu'on utilise, en fait, ces paramètres-là pour la conception des fondations et des choses comme ça.
D'accord.
Tu vois?
Oui.
Donc, on ne peut pas amener ces trucs-là dans les régions éloignées sur la Terre ou amener ces trucs-là dans l'espace. C'est hors de question.
Parce que dans le Grand Nord, par exemple, bon, pendant des années, il y avait le pergélisol qui est... Donc, le sol était gelé en permanence. On savait quelle était la nature du sol. Amener des équipements lourds comme ceux-là, ce serait complexe, là, surtout dans un environnement changeant aujourd'hui où là, on doit comprendre la nature d'un sol avant de construire une maison dessus.
Exactement.
Donc, un outil comme celui-là permettrait de connaître, de comprendre la nature du sol avant d'avoir un projet d'infrastructure.
Donc, le but, c'est comment on peut développer justement des outils d'investigation avec le moins d'énergie, avec le moins de ressources humaines, et puis sans eau. Donc, c'était ça vraiment la philosophie derrière, quoi. Un petit peu peut-être on doit changer le principe d'investigation, le mécanisme, tu vois, qu'on utilise dans le système de forage. Donc, l'idée vraiment venait de ça. Et puis, imagine que tu installes ton instrument sur un rover et puis ils essayent de façon automatique d'explorer en fait l'environnement. Et une fois que tu veux, par exemple, bâtir sur une zone, ils envoient là les foreuses dans le sol pour justement déterminer les paramètres dont on a besoin.
OK. Est-ce qu'on va voir un prototype bientôt ou c'est encore très préliminaire, ce projet?
Ben, en fait, le premier pas là qui est vraiment le foreuse, on a un prototype, mais on essaye maintenant de monter en fait le système sur un rover. Dès que le prototype est prêt, je te tiendrai au
courant. C'est bon, j'ai hâte de voir ça. Vous avez initié plusieurs projets de recherche là, jusqu'ici, mais ce serait quoi votre rêve là, pour dans 5-10 ans? Qu'est-ce que vous aimeriez atteindre comme objectif?
Pas objectif personnel ou objectif...
Les deux.
Tu sais, là, à la fin de tout ça, j'aimerais bien être une collègue qui... Comment dire? Qui est toujours un soutien pour les autres. C'est comme... Être vraiment une bonne personne. Ça, c'est vraiment mon objectif personnel parce que franchement, là, rien n'est si important dans cette vie.
Oui, aider la prochaine génération,
dans le fond. Là, ça, c'est vraiment la motivation dans ma carrière, là. C'est comme, je veux que mes étudiants soient mieux que moi, personnellement et professionnellement. Et ils sont mes enfants. Mes enfants académiques, et franchement, sont vraiment la source de motivation pour moi. Et je veux vraiment les voir réussir. Et puis, comme je te dis, ce n'est pas juste réussir. Je veux vraiment les voir mieux que moi.
Donc, faire des carrières en recherche, peut-être même
comme certains... Comme ils veulent, pas sur forcément la recherche. Là, c'est chacun à ses propres rêves.
Se réaliser personnellement.
Oui, oui.
Ouais.
Et puis, contribuer à la société. Et puis... vraiment former une génération des ingénieurs contents, satisfaits. Et quand je dis, en fait, content d'être satisfait, deux choses complètement différentes. Mais ce que je veux, c'est qu'ils se voient comment ils sont importants pour la société. Tu vois un petit peu la responsabilité là, de les responsabiliser de leur rôle et puis qu'ils font en fait de leur mieux pour contribuer à la société. Et puis, j'aimerais bien vraiment voir Astrolite vraiment au-delà de Polytechnique.
C'est tendre parce que, oui, Astrolite, à la base, en ce moment, c'est essentiellement des chercheurs de Polytechnique, mais vous êtes ouvert aux collaborations.
Oui, Martha, moi, personnellement, je suis contre le mur. Il faut vraiment bâtir pour la société. Et puis, oui, ça se verra, on travaille dans un milieu académique qui est super compétitif et puis il faut toujours écrire les demandes de subvention. Mais là, on a plus d'intérêt commun que de compétition. Oui, oui, on a créé Astrolite pour le Canada. Et puis, il ne faut pas vraiment perdre la vision de base. C'est beaucoup plus grande que moi, c'est beaucoup plus grande que... mes collègues, là, je veux dire, des individus. Et puis, il y a quand même une force, une volonté collective derrière, là. Quand j'ai vu la première conférence inaugurale, là, d'Astrolite, et puis, tu as remarqué, l'amphithéâtre était presque, en fait, plein avec les étudiants. Et puis, j'aimerais bien vraiment... Moi, juste, je contribue. J'essaie vraiment de pousser les choses. J'aimerais vraiment voir le nombre d'entreprises que les étudiants de Polytechnique ou les autres étudiants là qui vont fonder. J'oublie jamais là, les jeunes qui sont venus dans mon bureau là à peine de pleurer là. C'est oh, je veux faire ça. Ma note n'était pas bonne, le GPA, j'avais ce problème, mais je veux faire mes études, je veux faire là. Et puis j'ai regardé la personne, j'ai dit qu'est-ce qui t'empêche? Et puis il m'a dit que là, voilà, j'ai peut-être pour l'admission, j'aurais avoir le problème là. J'ai dit, je suis là pour te soutenir. Et puis j'essaierai de sa main et puis je dis bienvenue.
Quand une personne est motivée, vous
l'appuyez. La personne est parmi mes meilleurs étudiants. Là, j'en doute même pas. Là, mais il faut vraiment un petit peu encourager nos jeunes. Là, c'est pas la fin du monde si une année tu vraiment t'arrives pas à réussir ou te performer bien là, mais il n'y a pas de problème là. Il faut juste motiver les gens, il faut les aider à aller un petit peu au-delà de ce qu'ils croient qu'ils sont capables à faire.
C'est le rôle, entre autres, là, des professeurs d'université. On est là pour former la relève, oui. puis faut avoir à cœur le succès de nos étudiants. Dernière question. Donc, on comprend par votre parcours que vous vous êtes promené beaucoup. Donc, Paris, Québec, Winnipeg, oui. Montréal. Là, est-ce que vos valises sont déposées à Montréal pour longtemps?
Oui, là, c'est chez moi.
Oui, c'est chez vous. Oui. Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement de Montréal comparativement aux autres endroits dans le monde que
la
vous avez
visité? La francophonie. Et puis, je ne veux pas dire pour être politiquement correct, mais vraiment, c'était la raison pour qu'on est rentré en fait à Montréal. C'est comme la francophonie, mais en même temps, tu vis dans une ville très multiculturelle,
oui,
qui respecte la diversité. Et je pense que c'est très, très important. Ça veut dire que tu as quand même
un lien
culturel que tu as avec la francophonie. Comme je t'ai dit, j'ai fait mes études, même si je n'ai pas fait mes études dans une école française en Iran. Mais j'avais justement dans ma famille les gens qui avaient fait en fait leurs études en France et puis il y avait toujours des livres en français ou la traduction des romans, tu vois là, les grands écrivains français. Donc j'ai grandi quand même avec ça. J'ai appris la langue française à l'aide de Georges Brassens.
Ah ouais, je suis le plus grand fan de Polytechnique de Georges Brassens. Faudra s'en reparler.
Oui, donc... Tu vois, c'est toujours, t'as passé ta jeunesse quand même à Paris et puis dans un environnement qui était, waouh, c'était vraiment inspirant. Donc, la raison vraiment qu'on est rentré là, on a vécu quand même un petit peu le Canada anglophone. Et je peux te dire là, on a décidé de rentrer à Montréal pour la francophonie, pour sa diversité, pour l'ouverture d'esprit des gens à Montréal. Et pour moi là, c'est vraiment chez moi.
Ah ben, content d'entendre ça.
Oui.
Écoutez, Pounée Magul, ça a été un vrai plaisir de vous rencontrer. j'ai particulièrement apprécié d'en apprendre plus sur votre parcours. Merci beaucoup pour le temps accordé, c'est apprécié.
C'est avec plaisir. Merci beaucoup, Martin.
Merci.
Au revoir.
Voilà, c'était Histoire de génie. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, abonnez-vous à notre balado sur les différentes plateformes. Et pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, venez voir ce qui se fait de plus impressionnant comme recherche à Polytechnique Montréal en visitant mon blog Le Labo 2500 à l'adresse polymtl.ca/blog. Merci de nous écouter et à une prochaine histoire.